Chapitre 14. La bataille de la vie. Le père mort, la mère aveugle, la sœur trop jeune encore pour travailler, la maison brûlée, la moisson perdue, que pouvait faire le pauvre Justin, un enfant de 16 ans? Il écrivit tout cela à son vieux professeur en lui demandant conseil. La réponse ne se fit point attendre. M. Müller conseillait vivement à Justin de revenir à Paris. Paris n'était-il pas le pays des ressources? D'ailleurs, il serait là, lui, pour l'aider, de tout son pouvoir. Le brave homme était pauvre, mais il était seul sur terre, alors il était riche. Il mit son petit trésor, économie de 10 années, à la disposition de Justin, et l'invita à descendre dans une maison voisine de la sienne. Il y aurait eu de l'orgueil à refuser, Justin n'en eut pas même l'idée. Il accepta. Ce fut alors qu'il vint s'établir à Paris, dans cette maison du faubourg Saint-Jacques, où Jean-Robert et Salvatore venaient d'entrer. Il s'installa dans cette misérable salle dont nous avons essayé de donner une idée à nos lecteurs. Pendant 1 an, il demanda vainement des leçons de tous côtés. Chacun riait au nez de ce professeur de 15 ans et demi. Ce ne fut que la seconde année qu'il obtint quelques répétitions, mais le peu d'argent qu'elle rapportait était loin d'être suffisant pour la nourriture de 3 personnes. Ses répétitions ne lui prenaient que 3 heures par jour. Il chercha quelle autre industrie il pourrait exercer. Il apprit qu'une place de professeur de musique était vacante dans un pensionnat de jeunes filles. Il alla se présenter, muni d'une lettre de recommandation de M. Müller, pour la maîtresse de la pension. Il fut reçu à bras ouverts. Le vieux et bon maître avait mis dans sa lettre que ce serait lui rendre un service véritable que d'accepter son protégé et de lui donner la place vacante. « Le jeune homme en avait besoin, » ajoutait-il. La maîtresse de maison, sachant que le protégé de M. Müller était pauvre, pensa qu'elle en aurait bon marché. Elle lui offrit 20 francs par mois. Le vieux professeur, qui avait l'orgueil de son élève, lui conseilla de refuser. Justin accepta. Avec ses 20 francs par mois et l'argent des répétitions, on pouvait vivre modestement, sans doute très modestement, mais enfin, la vie matérielle était assurée. De ce côté, on n'avait donc présentement aucun grave sujet d'inquiétude. Le passé était noir, le présent n'était que sombre. Où l'inquiétude commençait, c'était quand le nom du cher maître venait à être prononcé dans la maison. Et l'heure ne sonnait pas une seule fois à l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas que ce nom ne fût prononcé. On lui devait le trésor prêté par lui, une somme de 1 000 francs. Somme énorme que Justin ne gagnait pas même en 1 année. Comment le rembourser? Où trouver du travail? On en demandait partout. Nous le répétons, la mère était aveugle, la sœur laborieuse, mais faible de santé et presque toujours malade. Un marchand de bois du boulevard Montparnasse avait besoin d'un teneur de livres 2 fois par semaine. Justin se présenta chez lui. Sa mise, sans être des plus pauvres, était des plus modestes. Le marchand de bois donnait 50 francs à son prédécesseur, dandy du faubourg qui venait quand il n'avait plus le sou et quand ses bonnes fortunes lui en donnaient le temps. Le marchand de bois offrit à Justin 25 francs. Justin accepta. Avec la plus stricte économie, en glanant sur le nécessaire, il fallait 4 ans à Justin pour compléter les 1 000 francs dont il avait besoin. Ses leçons de grec et de latin, ses leçons de musique, sa tenue de livre ne lui prenaient pas plus de 8 heures par jour. Il lui restait encore 4 heures de jour et 12 heures de nuit. Il se mit en quête de nouveaux élèves et d'un nouvel état. Justin se sentait capable de tout, appuyé sur ce double devoir de soutenir sa mère et sa sœur, de rembourser le bon M. Müller. Un nouvel état était plus facile à trouver que de nouveaux élèves. Il le trouva. À quelques pas de la maison, un peu plus haut dans le faubourg, était une typographie où s'imprimait un journal quotidien. Le prote, brave garçon, qui 12 ans d'avance sentait probablement venir 1830, fatigué de corriger les épreuves des élégies royalistes de son patron, employé supérieur au ministère, le prote un beau matin brisa sa chaîne, ouvrit ses ailes et s'envola. Le propriétaire du journal et l'imprimeur, embarrassés, le soir, pour faire corriger les épreuves de leurs feuilles, apprirent que dans le voisinage demeurait un jeune homme doué des qualités nécessaires à ce pénible travail. On lui demanda s'il consentait à accepter cette place. Cette place était pour Justin la terre promise. Justin avait le bonheur d'ignorer la politique, dont il n'avait pas eu le temps de s'occuper. Autant que son cœur pouvait haïr, il haïssait l'étranger qui avait envahi la France, les Cosaques qui avaient incendié sa ferme, brûlé les yeux de sa mère, fait sa sœur orpheline. Mais d'opinion, il n'en avait point, ou plutôt, pauvre et honnête créature, il n'en avait qu'une, nourrir sa mère et sa sœur, rembourser les 1000 francs de M. Müller. On lui fit observer qu'il fallait passer les 2/3 de la nuit. Il accepta. Quand on lui demanda combien il voulait gagner, il répondit « Ce que vous voudrez ». Il entra donc comme prote dans cette imprimerie vers le milieu de l'année 1818. Un an après, jour pour jour, il avait rendu à son vieux maître les 1000 francs que celui-ci lui avait prêtés. Un an après, il avait économisé 600 francs. Quel beau rêve faisait le pauvre Justin! Il se voyait, au bout de 4 ans, avec une dot de 3 000 francs pour sa sœur et 400 francs pour les frais des noces. Mais lui, qu'était-il? Un manœuvre, un moulin à travail dont le tic-tac ne s'arrêtait que de 2 heures à 6 heures du matin. C'est en parlant de ces hommes-là qu'une bouche sainte a dit « Travailler, c'est prier ». Le rêve de Justin eut le sort de tout rêve, il s'évanouit. Justin tomba malade. La maladie était grave. Une méningite le conduisit en 8 jours à la porte du tombeau. Une fièvre typhoïde qu'elle menait à sa suite le cloua pour 2 mois dans son lit. Le proverbe russe dit que les malheurs vont par troupes. Ce proverbe russe a raison comme s'il était français ou espagnol. Une fois le pauvre Justin malade, tout lui manqua. Les leçons de musique furent données à un pianiste en vogue qui n'en avait pas besoin. Il avait la vogue. Aussi ne venait-il que quand il avait le temps de venir. La tenue des livres avait été rendue au dandy qui prétendait s'être amendé. La feuille royaliste avait fait faillite, tuée par l'acharnement qu'elle l'avait mis à soutenir la chambre introuvable. Or, comme un prote, son journal était un luxe que le défunt propriétaire ne pouvait se passer. Le journal tombé, on remercia le prote. Restaient les répétitions. Malheureusement, on était arrivé à la saison des vacances et tous les élèves étaient partis. Le bon monsieur Müller était là, par bonheur. Müller, la suprême providence de la pauvre famille, celui qui avait suppléé Dieu quand Dieu, occupé de la chute d'un empire, avait détourné ses regards de l'humble ferme incendiée. On venait de lui rendre ses 1000 francs, on pouvait les lui redemander. Justin en fit l'objet de sa première sortie, le but de sa première visite. Il se traîna, encore faible, en s'appuyant aux murailles chez le professeur. Il le trouva, dans sa chambre, assis sur une petite malle qu'il venait de fermer. « Ah, te voilà, garçon, dit-il, je suis bien aise de voir que tu vas mieux. »« Oui, monsieur Müller, répondit Justin, et vous le voyez, ma première visite a été pour vous. »« Merci, ma foi, j'allais prendre congé de toi, te dire adieu. »« Comment, vous partez donc ?» demanda Justin avec inquiétude. « Oui, mon ami, je fais mon grand voyage. »« Quel grand voyage ?»« Je t'en ai jamais parlé, attendu que, si je t'en avais parlé, tu ne m'eusses pas emprunté les 1000 francs que tu viens de me rendre. »« Mon Dieu !» murmura Justin. « Je t'ai dit que j'étais de la même ville que le grand, que l'illustre Weber. Tout enfant, nous nous sommes connus. Jeunes gens, nous nous sommes aimés. Homme, je l'ai admiré. » « Eh bien, je m'étais toujours promis de ne pas mourir sans avoir revu l'auteur de Freischütz et d'Oberon. J'avais, à force de travail, tu sais ce que c'est, toi, économisé 1000 francs pour pouvoir poser cette couronne de joie et d'orgueil sur ma vieillesse. J'allais partir quand tu as eu besoin de mes pauvres 1000 francs. J'ai dit, bah, nous sommes encore jeunes, Dieu nous fera vivre assez, Weber et moi. » pour que Justin ait le temps de me rendre les 1000 francs que je vais lui offrir. Cher monsieur Müller, je te les ai offerts, mon enfant, tu les as acceptés, j'ai vu les efforts que tu faisais, pauvre galérien de l'honneur, pour arriver à me les rendre, et moi, vieil égoïste, qui aurais dû te dire, « Travaille moins, tu as le temps, la jeunesse a des ressources, mais il faut les ménager. » Je ne t'ai rien dit de tout cela. Mon pauvre cher enfant, et je t'en demande pardon, je t'ai laissé faire. Il est vrai que j'entendais répéter, le pauvre Weber est malade, il a la poitrine prise, il n'ira pas loin, sans compter qu'il y avait dans sa musique les derniers soupirs d'une âme qui s'envole. Enfin, à force de privation, tu m'as rendu mes 1000 francs, mais du moins convient que je ne t'en avais jamais parlé. Ah, monsieur Müller, non, je te jure, mon pauvre enfant, que j'ai besoin de cela. À peine les ai-je eus en main que je me suis dit, bon, ce sera pour les vacances. Tu comprends, si Weber, que je n'ai pas vu depuis 25 ans, allait mourir, mais Dieu merci, je l'embrasserai auparavant. Oh, le cher grand homme, j'ai reçu hier une lettre de lui. Il est à Dresde, occupé à créer un opéra allemand pour le roi de Saxe. Ce matin, j'ai fait ma malle, retenu ma place pour Strasbourg. Voilà mon bulletin, ce soir, je pars. J'allais aller t'embrasser, mon enfant, tu viens, nous allons déjeuner ensemble. Ah, monsieur Müller, murmura Justin d'une voix étouffée, je ne mange pas encore. Quel malheur que tu ne puisses pas venir avec moi. C'est impossible, n'est-ce pas? Tout à fait impossible. Je comprends, tes leçons de musique, tes répétitions, tes livres en partie double, tes corrections d'épreuves, tu vas reprendre tout cela. Oui, soupira Justin. Müller était si joyeux qu'il n'entendit pas ce soupir. Ce soupir, aussi triste que la dernière pensée de Weber, c'était cependant l'adieu à la suprême espérance. Justin n'aurait eu qu'à dire « J'ai besoin de vos 1000 francs, cher monsieur Müller, pour ne pas remonter vers la santé d'un pas imprudemment rapide. J'ai besoin de vos 1000 francs pour nourrir ma mère et ma sœur. Vous verrez, monsieur Weber, plus tard, ou même, vous ne le verrez pas, mais restez, bon Müller, restez. » Müller eut peut-être poussé un soupir aussi triste que celui que venait de laisser échapper Justin, mais à coup sûr il fut resté. Justin ne dit rien. Il embrassa M. Müller, lui dit adieu, rentra chez lui en pleurant et tomba accablé sur son lit. Le même jour, à 5 heures, Müller partit pour Dresde. Müller partit, on épuisa jusqu'aux dernières ressources. Justin, convalescent, fit un nouvel effort et se présenta pour redemander ses anciennes leçons et des leçons nouvelles, mais les 2/3 des parents lui répondirent par ce philanthropique remerciement « Vous jouissez d'une trop mauvaise santé ». Ce fut alors que le jeune homme, à bout de tout, presque de courage, presque d'espérance, presque de foi, eut l'idée de créer une école primaire dans ce pauvre faubourg, trop plein d'enfants, trop vide de ressources. Une brave ouvrière se hasarda d'abord à lui donner son fils. Une autre, qui travaillait en journée et qui ne pouvait garder le sien, le lui confia, plutôt pour s'en débarrasser que pour lui faire apprendre les 4 règles. Une troisième lui amena 2 élèves à la fois, 2 jumeaux de 7 ans. Au bout de 6 mois, il avait 8 petits écoliers, plus blonds, plus frais et plus roses les uns que les autres, mais il était obligé de les garder toute la journée, et ses 8 pensionnaires lui rapportaient 40 francs par mois, car, nous l'avons dit au commencement de l'autre chapitre, il leur faisait don pour 5 francs par mois de toutes les richesses de l'écriture, de la lecture et des 4 premières règles. C'est encore au reste ce que l'on paie aujourd'hui aux pauvres maîtres d'école de ces quartiers perdus. Enfin, au bout de 2 années, vers le mois de juin 1820, il était arrivé à avoir 18 élèves, ce qui lui faisait 1080 francs pour vivre, sa mère, sa sœur et lui, et avec cette somme, ils vivaient tous les trois, puisque le mot « vivre » peut se traduire à la rigueur par cette paraphrase « ne pas mourir de faim ». Quant à M. Müller, il était allé à Dresde et en était revenu. Il avait vu et embrassé Weber, il était resté son mois de vacances tout entier avec lui, et à son retour, il avait dit à Justin « J'ai dépensé jusqu'au dernier sou de mes 1000 francs, mais foi de violoniste, je ne les regrette pas ».